soyez les bienvenus avec Leïla Kazan.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel Morel.
Bien joué.
Tom Villa.
Bonjour, Dani.
Tout à l'heure, Tanguy Bassureau et notre invité, Franck Gaston.
Bravo.
La folie. La folie au Vélodrome. Ah, mais non, c'est plutôt à la Beaujoire.
C'est ça,
c'est à Nantes que ça se passe. Bienvenue Franck, ravi de vous accueillir à nouveau, mais cette fois-ci pour le film La Surface de Réparation de Christophe Régin, qui sera en salle le mercredi prochain, le 17 janvier. Très bon film. Je ne sais même pas à quoi je m'attendais.
À une daube, il nous l'a dit juste avant.
Je m'attendais à un film, mais à une comédie, parce qu'elle était incarnée par vous, par quelque chose de très 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 fouteux, parce que évidemment le jeu de mots, La Surface de Réparation, je me suis dit bon bah ça va être un truc sur le monde du football, mais comme on l'a trop vu au cinéma. Et en fait, c'est un film qui est extraordinairement émouvant sur le personnage que vous incarnez, qui est un ex-footeux, un peu loser, qui devient homme à tout faire, mais qui est surtout totalement imprégné par le football club de Nantes. C'est son club, quoi qu'il arrive, même si on lui dit, si on le vire par la porte, il repassera par la fenêtre, par la cheminée, peu importe. Enfin, il veut en être, et il veut suivre les jeunes, il veut les aider, même à ne pas faire de conneries en allant les chercher dans les boîtes de nuit pour qu'ils rentrent vite se coucher et dormir, à se consacrer au foot. C'est une histoire d'amour aussi, c'est une histoire de réalisation personnelle, de vie qui redémarre. Ça pourrait être dans n'importe quel autre milieu, n'importe quel autre domaine, je le dis pour ceux qui sont un tout petit peu bloqués autour du football.
Ou Nantes.
Et ceux qui jouera contre Paris ce dimanche d'ailleurs. Ah bah. Mais au-delà de ça, ceux qui aiment aussi le football peuvent découvrir un vrai côté, parce que ça existe aussi ce genre d'histoire dans le monde du football. Donc voilà, c'est en ça que je dis bravo et merci, parce que c'est un sacré film où vous assurez, vous jouez extrêmement bien.
Enfin, ouais, bravo.
Moi, j'ai adoré. Bravo.
Merci d'être venu. Merci d'être venu. Les carnets de campagne.
Bonne journée.
C'est tout pour moi. Bonsoir Paris. Comment vous présenteriez ce bonhomme qui, comme par hasard, s'appelle Franck dans le film?
Ouais. Non, mais alors d'abord, c'est le meilleur pitch de toute la promo, Nagui. Bravo.
C'est gentil.
Vous êtes le meilleur pitcher du cinéma.
Il l'a dit chez Bernier, ça va.
Non, non, je reconnais, c'est incroyable.
Un peu long. Il l'a dit au Gigi Yann Martès avant-hier.
C'est tout ce que tu viens de dire, avec beaucoup de talent. Moi, ce que je rajouterais à ça, c'est que moi, j'ai eu les mêmes appréhensions quand on te dit que tu vas lire un scénario sur le foot. Tu dis le foot au cinéma, c'est un peu casse-gueule. Il n'y a pas de grands exemples de films très réussis sur ça.
À part les documentaires de Reichenbach sur Pelé, Maradona.
La victoire avec Stallone.
Moi,
c'est autre chose.
C'est vrai, étonnamment, filmer le football au cinéma, c'est quand même un truc.
Alors,
chiant. Ouais, souvent chiant. Ouais.
Non, parce que déjà, c'est sorti
d'un seul coup.
C'est surtout, il y a eu coup de tête aussi qui était à mort l'arbitre. Mais c'est vrai que le foot en lui-même est déjà tellement bien réalisé maintenant à la télévision que c'est impossible de réaliser mieux au cinéma. Non, ce qui est fort, c'est l'histoire de ce bonhomme qui est vraiment. Perdu.
C'est ça, mais tu le disais quand effectivement ça peut cette histoire pourrait se passer dans n'importe quel milieu artistique, n'importe quel milieu qui nous fait rêver. Et puis à un moment, ce film parle du moment où il faut qu'on accepte qu'on a échoué dans la vie, parce que c'est fantastique cette période dans laquelle on est, où on se dit il faut s'accrocher, se bagarrer pour nos rêves, et c'est vrai. Sauf qu'il va falloir aussi accepter qu'on peut-être on va échouer et qu'il va falloir vivre avec ça, avec le poids d'un échec. Alors dans le football, c'est encore pire parce que le coup près tombe très violemment. Soit t'as pas le niveau, soit tu t'es blessé et tous ces
t'es mauvais.
Ouais, c'est ça, c'est terrible. Mais il va falloir vivre avec ça.
C'est juste une blessure. Et nous, très concrètement, on a un exemple ici à Guillermo. Guillermo qui était un grand espoir du football.
Non, Guillermo est un grand espoir tout court. Restera un grand espoir de tout dans la vie. Même ses fiancés disent
c'est un grand espoir du football. Il s'est blessé au genou et voilà, il finit comme un crevard chroniqueur sur France Inter.
C'est exactement de ces échecs dont je vous parle.
C'est moins dur.
Non, mais ce qui est beau avec votre personnage, c'est que c'est un personnage bienveillant, c'est-à-dire que malgré cet échec là, il est très positif avec les jeunes. Il les encadre comme si il jouait avec chacun d'entre eux, notamment un, Djibril, je crois, son avenir à lui, comme s'il rejouait son histoire. Et il est aussi, il accepte souvent d'être maltraité. Parce que, comme on l'a dit, il est dans ce club, il évolue, il rend beaucoup de services. C'est un peu Léon le nettoyeur pour arranger quelques histoires avec les stars de l'équipe senior, on va dire. Mais quelque part, il accepte de pas avoir de statut, de faire un peu le sale boulot.
On sait même pas s'il est payé billets, si ça s'arrange en vendant des places.
T'as tes billets ou pas
d'ailleurs?
T'as tes billets?
Ouais, c'est ça. Le fameux gimmick de t'as tes billets.
Mais en fait, si tu veux, ça pose aussi la question.
Et on ne sait pas, s'il est manipulé par des gens ou si c'est lui qui est le malin de l'affaire.
Ouais, je crois que ça arrange plein de gens, surtout qu'il ait cette position dans le club. Je crois que ce genre de mec existe d'ailleurs dans les clubs, particulièrement les petits clubs de province. Et où on va profiter un peu de ces mecs qui, malgré tout, ont consacré toute leur jeunesse au football, qui parfois ne savent pas faire grand-chose d'autre. Et puis,
Ils ont ça dans le sang et ils ne trouvent pas leur place dans la société.
Et ce mec devient une espèce de fantôme dans le club où il ne veut pas en partir, il ne sait pas faire autre chose. Et puis, il ne prend que des coups, parce que finalement, quand tu vois les autres joueurs, ça te rappelle que toi, t'as échoué. Quand il rencontre cette jeune fille qui est interprétée par Alice Izaz, ben, elle aussi, elle est quand même plus intéressée par les footballeurs que le mec qui a échoué. Donc rester dans ce club le conforte en permanence à ses propres échecs. Et puis, il va falloir finir par accepter cet échec et trouver d'autres solutions et un autre combat pour pouvoir être serein dans
sa vie. La fin est formidable, en tout cas. Et puis, la manière dont on comprend les choix qui ont été faits. Non, c'est vraiment un bon film qu'on vous recommande. C'est Christophe Régin qui l'a réalisé. Dans le contexte, il fallait bien trouver un club en toile de fond. Comme le football ne sort pas forcément grandi ou certains dirigeants ou le club, ça a été facile de convaincre le FC Nantes d'accepter d'être la toile de fond. Vous le savez ou pas d'ailleurs les méandres de
Non, alors ce que je sais, c'est que effectivement le sujet ne traite pas forcément de ce qu'il y a de plus reluisant dans le football, mais en même temps, ce qu'il y a de reluisant dans le football, on en parle tous les week-ends quand on fait les débriefs de matchs. On parle beaucoup moins de ce qui peut se passer. Alors encore une fois, c'est pas
si on parlait des joueurs par exemple qui se faisaient attraper à la sortie de boîte de nuit par Giroud à Auxerre.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que là, c'était carrément le dirigeant et pas un sous-fifre qui allait chercher les joueurs à la sortie des boîtes de nuit, mais c'était vraiment Giroud qui donnait des pourboires aux videurs de boîtes de nuit pour savoir quel joueur venait dans quelle boîte.
Vrai, t'as raison.
Or le problème en province, c'est qu'il n'y a qu'une boîte généralement dans le quartier. Donc il se faisait forcément gauler
non, et à Paris.
Et il avait même dans sa poche les employés des péages d'autoroute. Donc dès qu'il y avait un joueur qui traversait un péage d'autoroute, il avait un coup de téléphone en disant il y a tel joueur qui est parti pour Paris.
Il y a Djibril Cissé qui va au Queen sur les champs.
Non mais c'est vrai, c'est l'un des vrais soucis. Donc Nantes a accepté, en tout cas ils ont été accueillants.
Et surtout que l'histoire a vraiment été écrite pour ce club, et puis on est arrivé dans une période où ça allait pas très bien. Alors s'il y a des spécialistes du football, ils pourront nous remettre dans le contexte, mais une période où il y avait un problème d'entraîneur, il y a un problème de supporter, il y a même des petits problèmes de sécurité au moment où on a tourné là-bas.
La semaine dernière. C'est tous les jours comme ça à Nantes. Non, je blague, ça va légèrement mieux. Donc c'était il y a un an.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on a été accueillis absolument très bien, sauf que effectivement il y a un moment où on devait tourner une scène au stade et pour des histoires de sécurité parce que ça chauffait un peu à ce moment-là dans le club, on n'a pas pu le faire.
Alors il y a
c'est pas une peinture que négative du foot pour le coup, parce que justement, et j'en reviens encore à votre personnage, c'est un personnage qui est quand même au contact de tout ce qui fait un peu la réputation sulfureuse du football, l'argent, le sexe, la drogue aussi, mais on sent qu'il y a quand même tout autour du club et des joueurs, des bénévoles, des gens qui sont vraiment impliqués, qui ont vraiment en tête une valeur fondamentale qui est le groupe, qui a un rapport de fidélité aux dirigeants, on le voit avec le personnage d'Hippolyte Girardot. Donc il y a quelque chose de très positif finalement aussi sur...
Oui, et puis presque familial, c'est-à-dire qu'ils se connaissent tous, quand vous arrivez au stade, vous serrez la main de tout le monde, on sent qu'il y a quelque chose...
C'est le lien social de la ville en fait.
Ouais, complètement.
Une passion commune.
Ouais, et puis cette passion qu'il a pour le club. Après évidemment, ce n'est pas une généralité, les excès, les travers, mais ils existent, et puis là, on a choisi de les traiter en partie, et vraiment en partie en plus.
Si on sort du football, est-ce qu'on pourrait dire que ce film est sur l'histoire de quelqu'un de passionné qui fait tout pour vivre de sa passion, quitte à se détruire un peu lui-même ?
Ouais, c'est complètement ça, et qui est confronté à un échec, et il va falloir accepter de vivre avec cet échec. Moi, je me suis, quand j'ai incarné ce personnage, je me suis aussi posé la question de ça, c'est-à-dire que, tu sais, c'est terrible quand tu te dis que ton compagnon de chambre au centre de formation, lui, il a réussi et pas toi. Lui, il a de l'argent et pas toi. Lui, il passe à la télé et pas toi. Et tout ça, il va falloir que tu l'assumes d'abord toi, par rapport à ton ego, ton orgueil, et puis par rapport à tes proches, par rapport à à ta femme, tes enfants, de dire bah papa, lui, il a pas réussi là.
Ouais, sauf que votre personnage va vivre un peu par procuration la réussite des autres et, ouais. va au contraire leur dire toi, tu as cette chance là de pouvoir réussir ou de pouvoir exister ou d'être pro, ne gâche pas cette chance, fais pas le con, parce que après, quand c'est un problème physique de ne pas réussir, ou c'est un problème simplement de seuil de capacité que qu'un joueur ne peut pas dépasser, ouais. Quand quelqu'un a la capacité mais le gâche parce qu'il a envie de sortir, de boire des coups avec ses potes, ou de se faire embringuer par des mauvaises bandes, ouais, qu'il a pas le mental, ça leur rend dingue, parce c'est que ça. Mais c'est du gâchis pour lui.
Sauf que là encore, tu es confronté à cette problématique quand tu as échoué dans le football, c'est que tu n'as pas été professionnel, et que pour être un orateur auprès des jeunes, c'est difficile.
Ouais.
Et on le voit, il y a cette scène où j'essaye de parler aux jeunes et de les motiver, puis d'un coup, il y a un vrai footballeur en activité professionnelle qui arrive, et puis j'existe plus. Et on parle qu'au mec qui a réussi. Donc c'est terrible de faire ta place dans le football quand tu as échoué, et quand c'est ta passion et qu'il y a que ça qui compte. Ça devient un fardeau insupportable, quoi.
C'est le premier long métrage de Christophe Régin. La tête d'affiche portée sur ses épaules, même musclées, un premier film, c'était un. On se posait des questions, on se dit, je voudrais voir quand même ce qu'il a fait, son travail, qui il est, d'où il vient. Je vais pas me risquer entre guillemets à faire un premier film.
Ah non, moi
c'est chaud, un premier film.
Ouais, mais alors j'en ai fait plusieurs avec beaucoup de succès. Je pense à Toute première fois que j'avais fait avec Pio Marmaille et Camille Cotin, qui était un succès, et qui on avait gagné un prix à l'Alpe d'Huez, etc. Ensuite, j'ai fait un autre premier film qui s'appelle Good Luck Algeria, sur le premier Algérien qui a fait les Jeux de ski. J'adore ce film, je suis super fier de l'avoir fait. Non, moi je me pense, là en l'occurrence, c'est la question inverse. C'est toi, tu vas prendre Gaston Bide, qui a fait les Caïra, Pattaya, essentiellement des comédies, et tu vas le laisser porter à presque lui tout seul, parce que je suis de tous les plans de ce film, ton premier long métrage. Alors que t'es un mec de la Fémis, ultra branché, intello, et moi, je fais des trucs avec des nains d'habitude.
Et des ours.
Exactement. Donc, tu vois, je me suis plus dit, putain, ce mec, il a.
Il est courageux.
Alors je vais travailler sérieusement. Et puis, tu vois, j'ai là, les films que j'ai cités avant, quand tu vas jouer avec des Samy Bouégila, des Pio Marmaille, ce genre de mec, tu fais tes armes, d'abord en second rôle, et puis le moment arrive où tu te dis, bon, est-ce que ça y est, j'ai les épaules pour porter un film comme ça.
Lui a déjà fait des courts-métrages autour du monde du sport.
Ouais, c'est vraiment son truc. Et d'ailleurs, il est bien plus spécialisé dans le sport et dans le foot que moi. Et c'est pour ça que je me suis un peu laissé aller dans le sujet profond du film, parce que je savais qu'il le maîtrisait vraiment et que c'est un sujet qui le passionne.
Quand vous dites que vous avez particulièrement travaillé pour ce rôle, comment vous y êtes pris?
En fait, c'est toujours un grand mot, un acteur, quand il dit « j'ai beaucoup travaillé pour ce rôle ». Parce que
vous étiez attendu, quoi. En tout cas, vous saviez que...
Ah bah, tu sais que là, tu prends le risque de louper la marche. Et, ouais. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très étonnant, c'est que les critiques de ce film sont tombées, elles sont excellentes. Et pour la première fois, on me dit que je suis un acteur, que c'est génial, il y a des mots comme épatant, impeccable, etc., qui sont des mots qu'on n'emploie jamais quand on fait des comédies. Et pourtant, j'ai le sentiment, quand tu fais les Caïra ou Pattaya, et c'est du travail, et c'est parfois, en termes d'acting, plus difficile. Parce que quand je suis avec Ramzy ou avec Malik Bentala, on est en train toujours de chercher comment on va être encore plus drôle.
Je pense pas que ce soit le fait que vous soyez épatant ou pas en comédie, épatant ou pas dans un film plus profond, plus psychanalytique peut-être dans le comportement du bonhomme. C'est que vous surprenez agréablement, parce qu'il y a toujours des préjugés en disant oui, lui, c'est un comique, c'est un peu votre Chapantin, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire... Vous êtes un peu fort.
Non mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire qu'on s'attend à la vanne, oui c'est ça.
Il se rend compte que c'est un comédien, quoi.
Même un débit différent dans la tchatch, même un verbe différent. Et d'un coup, voilà, on se rend compte que vous êtes comédien et un super comédien.
Oh bah je prends. On finit sur ça.
Salut, bonne journée.
Non, je veux juste dire que l'histoire est presque vraie, parce que je ne sais pas si Christophe Régin vous en a parlé, mais comme il a dit dans des interviews, en fait, il a rencontré des joueurs comme ça qui étaient rejetés de centres de formation et qui continuaient de faire tout pour vivre en satellite ou parasite. Je ne sais pas comment on peut le dire autour rester collé à leur passion. Ouais. Parce qu'ils ne vivaient que pour ça.
Ouais, ouais, et que tu as donné ta vie
donc
à ça.
Donc on est pas loin d'une histoire vraie, en fait.
Ouais, ouais, complètement, complètement. Non, je pense vraiment que ça, que c'est ce genre de mec existe. En tout cas, la trajectoire, et encore une fois, que ce soit dans le football, dans la musique, dans la radio, dans la grande entreprise, du mec qui a rêvé quelque chose et qui va devoir être confronté à cet échec et vivre avec ça, ça, c'est un sujet qu'on connaît un peu tous. Et à la question de comment on se prépare à un film comme ça, la réalité, c'est que avant que ça marche un peu pour moi dans le cinéma, j'ai fait beaucoup de petits boulots pas forcément valorisants, Et j'avais pas à aller chercher bien loin dans ma vie pour penser à comment ce mec marche, comment ce mec parle quand il parle à des gens hiérarchiquement supérieurs, socialement supérieurs. Mmh. Quand je parle au personnage d'Hippolyte Girardot, qui est un dirigeant du club, j'ai la voix qui change un peu, j'ai les épaules un peu basses. Ouais. Pareil quand je suis confronté à un footballeur.
Il faut dire que vous jouez un peu, on va préciser que vous jouez un peu l'espion pour les dirigeants, l'entremetteur.
Oui, le guirou un peu, comme tu disais, le mec qui surveille les joueurs, etc.
Le chaperon.
Enfin, guirou était un ouais. entraîneur. Mais...
Ouais, ouais, sauf que en plus, on se demande à quel point vous n'aidez pas à ce que certains joueurs se fassent virer, ah oui. d'autres pris. Ouais. Est-ce que vous repérez les jeunes ou est-ce que vous faites fuir un peu les pieds carrés qu'il peut y avoir dans l'équipe pro? Voilà.
Puis il peut tout faire. Si tu veux une voiture ou un chinchilla, il y en a. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est ça.
Alors, mais pourrait cacher un corps.
Ça, c'est une autre catégorie de mecs qui sont satellites dans le monde du football, qui ne sont alors pas du tout passionnés par le foot. Et je ne crois pas que ce soit vraiment le personnage de Franck Gastambide. Et c'est une part de ce personnage qui sont intéressés que par l'argent et qui vont être des intermédiaires, mais aussi bien pour acheter une montre, un blouson, une paire de pompes, une voiture, trouver en effet des produits dérivés de la drogue ou des filles faciles. Tout ce truc. Là,
vous en parlez tellement bien.
C'est des mecs. Même, alors malheureusement, j'en ai croisé quelques-uns qui sont des intermédiaires et qui sont vraiment, vraiment des raclures. Parce que ces mecs-là ne s'occupent absolument pas du football. Ils ne voient juste que le pouvoir d'achat. Ouais. Non, mais le pouvoir d'achat que peut avoir un joueur. Deux, il n'a pas le temps d'aller faire ses courses. Il n'a pas le temps d'aller chercher des trucs. Il est même par moment, quand on dit mise au vert, pour eux, c'est en prison. C'est-à-dire, ils sont dans un hôtel ou dans un stade à devoir faire des entraînements et ils n'ont pas le droit d'en sortir. Donc ils appellent comme ça des marlous en disant est-ce que tu peux me trouver ci, tu peux me trouver ça. Et les mecs en profitent et ils prennent des commissions.
Ouais, et puis ils en profitent aussi du fait que, en général, ces mecs sont un peu arrachés à leur famille pour se consacrer à un centre de formation. Ils arrivent dans une ville qu'ils connaissent pas, avec des gens qu'ils connaissent pas, et t'as très vite des mecs qui arrivent qui disent moi je vais m'occuper de tout, t'inquiète pas.
C'est ça.
Et oui, c'est pas forcément les mieux intentionnés.
Il y a même certains joueurs qui se servent, ça c'est l'une des scènes du film, de ces garçons en périphérie, des satellites autour du club, en disant aide-moi aussi, aide-moi parce que là ou coach-moi ou sois mon garde-fou parce que j'ai besoin aussi que quelqu'un soit un regard extérieur à ma carrière. Non mais vraiment il y a plein de trucs qui sont passionnants. Ça s'appelle La Surface de réparation. C'est mercredi prochain le 17 janvier que ça sort avec Franck Gastambide. Entre autres, on va parler des autres comédiennes et comédiens, mais je voudrais être sûr que Tom Villa ait compris la présence.
Oh, bah là, au bout d'une demi-heure, oui, ça s'effondre. Ouais. Non, je dois juste dire chapeau Franck, parce que c'est vrai que Franck Gastambide, acteur-réalisateur populaire, qui vient nous parler d'un film sur le milieu du foot, sport populaire, sur France Inter. Je vais pas te mentir, sur le papier, c'était pas gagné.
Mais t'es un snob.
Non, je dis ça de façon d'autant plus détendue que nous non plus, ici, c'était pas gagné.
Que nous, on puisse venir sur Inter.
Ah bah oui, j'ai joué à l'Euro Million pour toi, ce soir. Voilà, c'est cadeau. Tu connais le principe, hein, tu gagnes, on partage, tu perds, tu me rembourses. Non, mais c'est formidable, en tout cas. C'est vraiment pour ce soir. Non, c'est formidable, et c'est la première fois.
T'imagines s'il gagne?
Oh là là, moi, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas, ça me
rendrait
ouf.
Pourquoi?
Imagine, il gagne.
Ouais.
Mais je cours après, je rigolais. Ouais. Bref, ta chronique, Tom.
Non, et puis c'est un clin d'œil au film aussi, où il y a une scène comme ça avec un parieur de sportif.
Non, mais c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai que là, vous avez pris quelques jours de vacances, Nagui, on reparle juste de la programmation en deux secondes. L'émission, c'était n'importe quoi. On a reçu tout Radio France. L'Odéon Morel, pire. Manoukian, pire de pire. Moscato, on a même reçu du RMC, du 30. On était à deux doigts d'avoir Patrick Cohen pour parler de la matinale d'Europe 1. En tout cas, vraiment ravi d'avoir Franck Gastambide. Qui sur papier est peut-être pas France Inter, mais il est adorable, alors que bien souvent on reçoit des gens tamponnés à terre qui... Alors, très bon,
mais ça va pas,
très bon timing pour venir. Un petit film AD, profites-en, parce que c'est vrai que peut-être que tu reviendras pas pour Taxi 5. Alors, certes, t'étais venu ici pour Pattaya, derrière Nagui, il a été puni, pas de salaire pendant deux mois, et il lui ont manqué ses 300 euros, d'où l'objet de ma chronique. Petit manuel pour les acteurs réalisateurs de films populaires pour être invité sur France Inter. Déjà, si vous êtes abonné comme Franck au film à succès, il faut aussi faire des films qui font pas 200 000 entrées. Au-dessus, ça intéresse pas Inter. Avec la surface de ses réparations...
T'es fou. Mais t'es un grand malade.
Est-ce que ça veut dire que le film est pas bien?
Non. Mais ça fera beaucoup plus que 200 000 entrées, t'es malade.
J'ai joué à l'Euro Million. Le sujet du film aussi, le foot. C'est vrai que sur France Inter, ça pue du cul, mais ça peut passer. Bon, regardez, il y a le film Le Seigneur, Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Ramzy, José Garcia sur France Inter. Bon, voilà. En revanche, coup de tête.
Il est glissé, ça pue du cul quand même.
Bien sûr, ça pue du cul.
Ça a l'air pendant un mois.
Il a perdu en réactivité, Nagui. Avant, il était plus, vif. Il a mis 30 secondes.
Quand même, deux mois de vacances, ça ramollit. Hein.
Pardon, Tom, vas-y.
Non, mais continue, il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'on fasse un autre foot ou on vous dit
vous voulez qu'on fasse
Non, Ouais, des fois, il y a des...
Laissez-le.
J'ai oublié une consonne chez mes parents.
2 mois de salaire en moins.
Allez, 50 euros qui partent. Non, là aussi, on voit pas de match de foot. Oh là, j'en ai vu des chroniques compliquées, Franck. Mais je sais pas si t'as déjà bossé avec des salauds.
Mais elle va te rapporter, ça, parce qu'en droit d'auteur, elle va être longue.
Tout de suite, vous pensez au droit d'auteur.
Bah oui.
C'est quoi le numéro de la SACD? Alors. Non, mais là, on voit pas de match de foot non plus dans le film, mais plutôt, voilà, un mec qui, une petite main de club peut s'en sortir dans la dure vie du foot business, fille facile, argent sale. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous connaissez l'adage, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait le casting. Et là, on est pas mal. Alice Izaz, Hippolyte Girardot. Hippolyte, c'est la maison, c'est France Inter. Voilà. C'est vrai que pour venir chez nous, on se rend compte que c'est presque plus select qu'une boîte de nuit sur les Champs. Si tu connais pas, tu rentres pas. C'est vrai qu'il y a un standing à tenir. C'est vrai que si on commence à inviter tous les acteurs de comédie ou tous les footballeurs, il y aura plus de place pour les pièces de théâtre sur le génocide arménien vu par un enfant de 6 ans, et avouez que ça serait dommage. Autre conseil aussi, à l'avenir, oubliez les nains et les accents de Kaira. Vous mettez des orphelins ayant une maladie rare, dégénérative, avec l'accent moldave, comme ça France Inter devient partenaire du film. Voilà, vous espérez une belle diffusion dans les salles de cinéma d'Art et d'Esther. Alors entre nous, c'est quand même plus tranquille le Select d'Angoulême que l'UGC du Forum des Halles. Hein, et c'est avec grand plaisir que je te souhaite la bienvenue dans la bande originale. Tu reviens quand tu veux, et tu peux même revenir pour Taxi 5. On parlera de l'ubérisation de la société au sein de la communauté provençale et de l'inégalité salariale dans le milieu de l'import-export dans le plus grand port hexagonal. Bonne émission.
Merci Thomas.
Bravo.
La bande originale.
Ceci dit, j'ai hâte de voir Taxi 5 parce qu'il y a déjà quelques images de cascades qui vous surprennent et qui circulent sur Internet. Ça met l'eau à la bouche. On parlera football encore tout à l'heure avec Vincent Duluc, qui avait déjà été notre invité, mais qui cette fois-ci vient apporter son avis de professionnel, journaliste à l'équipe et son regard sur le football pour justement savoir à quel point ces fans de foot vivent en satellite comme ça autour, s'ils existent. Et moi, j'ai même l'impression que c'est eux qui font tenir par moment certains clubs, parce que tout le monde n'est pas professionnel dans des clubs, tout le monde ne peut pas forcément vivre du football, mais en péril du foot, il y a toute une vie qui se fait. On en parle avec lui tout à l'heure. Mais d'abord, Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit justement que Franck Gastambide revenait dans l'émission.
Et encore en 2018, elle siffle.
Et ouais, ça continue à siffler sans
ça. Ça s'appelle des acouphènes.
Des acouphènes toute la journée. Quand je pense à vous, Franck Gastambide, je pense à pas mal de choses, notamment à un film con, mais dans le bon sens du terme. Un film dans lequel vous avez tout fait ou presque.
Au début, avec ma meuf, tout il allait bien. On se kiffait de ouf. On tapait des grosses barres de rire. Et puis surtout, tous les jours, on n'arrêtait pas de ken. Puis elle a commencé à en avoir marre à cause de ma passion que je lui ressemble à Vin Diesel. Alors ça a commencé à être un peu moins la fête du slip.
Sérieux là, vas-y, bouge ta main. C'est ta copine ou quoi?
Même quand on se faisait des petits restos en amoureux, elle était vénère de moi.
Et moi, je suis une de tes frites, s'il te plaît.
Sur la tête de ma mère, en touchant une de mes frites, je me coupe de watt, ok?
T'es sérieuse là pour des frites comme ça?
Pattaya, pour donner une petite idée, hein, film que vous avez écrit, réalisé, dans lequel vous jouez. Vous avez même dressé les animaux et j'ai cru avoir lu que vous avez même cadré certaines scènes.
Oui, oui. Bah, quand on est adressé les animaux, cadrer, c'est plus très étonnant. Hein. C'est bon, tu finis par ça. C'est bizarre. Et vous avez cadré, vous étiez même assis.
Vous avez conduit votre voiture.
Il serait pas en train de se moquer de moi, Gastambide. Dites donc. Non, mais dresser les animaux, c'est logique. C'est logique dans votre itinéraire parce que vous l'avez fait par le passé. Vous l'avez fait sur les rivières pourpres, notamment. Mais cadrer, pour le coup, c'est techniquement, c'est pas non plus le truc le plus simple du monde.
Non, mais j'étais cadreur pour MTV pendant longtemps.
D'accord.
Et je suis toujours cadreur, et dès que je suis pas à l'image dans mes films, je prends la caméra.
Alors ça veut dire que quand vous faites un film, vous avez besoin d'absolument tout contrôler, c'est
oui,
ça l'idée?
Ça veut complètement dire ça, mais c'est pas un espèce de truc de mec qui veut tout contrôler, c'est plus un truc de mec qui veut toucher à tout, parce que c'est super ce jouet qui est le cinéma, et j'ai attendu tellement longtemps d'avoir le droit de jouer avec, que quand j'y suis, je veux toucher à tout. Et là, on parlait de Taxi 5.
Donc
Taxi
c'est du plaisir.
5, c'est du kiff incroyable, t'imagines bien.
Mais vous vous dites pas qu'à un moment que quelqu'un le ferait mieux que vous?
Non, mais il y a des choses que certains font mieux que moi. Maintenant, il y a aussi un truc de d'auteur, pour ramener le débat un peu France Inter, c'est que quand tu écris ton scénario, que tu l'imagines, que tu imagines la scène, tu sais, t'écris un film, t'es avec ton Mac sur les genoux, parfois sur ton canapé ou sur ton lit, t'écris cette scène, et puis un an après, t'es avec 250 personnes et t'es en train de créer la scène que t'as imaginée chez toi, qui est déjà un kiff incroyable. Ben, j'ai tellement envie qu'elle soit comme je l'avais dans ma tête que je prends la caméra et que je le fais moi-même quand je peux. Maintenant, sur un film comme Taxi, où on fait exploser des voitures, on a du matériel incroyable, il y a des choses que je maîtrise pas, évidemment, je laisse faire les choses. Maintenant, ouais, c'est un espèce de besoin de tout toucher, de kiffer, quoi.
Qu'est-ce que vous n'avez pas encore abordé alors, qui vous démange ?
La cascade, pas assez, mais je l'ai fait là sur Taxi. J'ai fait des cascades moi-même. J'ai fait, vous verrez des scènes de dérapage et de poursuite où c'est vraiment moi qui conduis.
Donc jusque là.
Bah ouais, mais tu te rends compte.
C'est le rêve de gosse, ça.
Bah c'est le rêve de gosse. Quoi.
Ah ouais, donc c'est Noël tous les jours, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. Bah c'est-à-dire que en plus j'ai un luxe incroyable, c'est que je l'écris la scène. Donc à un moment je l'écris et puis je vais voir Luc Besson, je dis patron, celle-là par contre j'aimerais bien la faire moi. Il me dit non, je dis bah si, c'est quoi ça, s'il te plaît.
Et on fait rouge.
Monsieur. Et puis il part me dire, bah tu pars 2 semaines avec les équipes de Julienne, les cascadeurs, et on va.
Tu apprends.
C'est ça, et t'apprends.
Ouais. Ouais, et côté assurance, ça pose pas trop de problèmes.
Bah ils sont pas toujours au courant de tout parce que sinon
ils seraient pas là.
Enfin, on fait plus rien.
Ouais, non, on fait plus rien.
Donc vraiment, c'est quelle serait l'étape d'après ? Produire des films vous-même ?
Oui, complètement, c'est le cas. C'est le prochain, ce sera le cas. Mais la production, c'est un truc, c'est pas très créatif, quoi, finalement. Donc c'est pas quelque chose qui me manquait.
Ouais.
Non, là, j'avoue que...
Alors, c'est pas créatif, mais c'est un gage peut-être de liberté, de création, pour vous.
Pourquoi vous y arrivez à produire ? C'est pourquoi vous voulez le faire ?
Tout simplement parce que je suis porteur de mes propres idées, donc tu finis par avoir une espèce de package où tu vas coproduire avec des gens en disant ben voilà l'idée, le casting, les financements, faisons-le ensemble. Voilà, c'est un espèce de truc...
C'est pour être tranquille, pour être plus libre, c'est ça ?
Bah, c'est pour être un peu plus propriétaire de ce qu'on fait, pour être concret. Mais j'ai jamais souffert de pas être producteur de mes films, quoi. Je m'entoure de gens qui sont corrects, qui m'accompagnent dans mes idées, et comme tu le sais, qui m'accompagnent, qui me laissent faire mes idées, parce que les Kaira Pattaya, c'est quand même des comédies sans concession, où je fais un peu ce que je veux et où on me laisse faire, quoi.
Et jusqu'où ça va
aller ? Et vous auriez aimé, être producteur, justement, de ces films ?
Bah, je me suis jamais posé la question. Je pense que tu te poses cette question.
Vous dites, j'aimerais être propriétaire du travail que j'ai fait. Donc, est-ce que vous vous sentez dépossédé des Kaira de Pattaya parce que justement d'autres en sont propriétaires et que vous avez mouillé la chemise pour eux ?
Non, parce que j'ai l'impression d'avoir eu les bons partenaires et que ces gens mouillaient la chemise pour moi aussi, tu vois. Donc, mais après, c'est une espèce de truc un peu logique. Tu finis par avancer dans ce métier, tu finis par produire tes projets. Et puis surtout, c'est aussi la volonté de la production, pour être très clair, c'est que il y a un moment où je ne peux pas faire toutes les idées que j'ai dans ma tête. Faire un film, en général, je passe une année à l'écrire, une année à le fabriquer, à le sortir. Bon, pendant ces 2 années-là, je suis concentré sur un film. Et puis, il y a les autres idées que je pourrais produire. Donc, ça va servir à ça, surtout.
D'accord, et donc c'est pouvoir produire des films de copains ou c'est aussi, j'ai la sensation qu'il y a un rapport à la bande.
Ah oui.
Qui est important, on le voit dans le casting de vos films en tout cas.
Ouais, et puis là même quand je fais Taxi, je ramène mes copains, quoi. J'impose mes copains dans la franchise Taxi. Ben oui, mes potes, c'est mon inspiration. J'adorerais avoir des talents de romancier qui écrit une histoire et puis après qui se pose la question de qui pourra incarner les rôles. Et moi, c'est la méthode inverse, quoi. Je suis avec Ramzy, avec Gad, avec Malik, avec Sabrina, avec... mon pote le nain, et je les vois faire des trucs, et je prends des notes, et je me dis quel terrain de jeu je peux leur préparer à toute cette bande.
Vous suivez l'exemple de qui ? C'est-à-dire qui vous a dit, quelle carrière, quel producteur, réalisateur ? Est-ce que c'est Besson, par exemple ? Vous dites, tiens, j'aimerais bien faire ce qu'il a fait.
La vérité, j'ai pas trop de plan de carrière. Je suis pas trop en train de me dire, il faudrait que je fasse comme lui ou lui. J'ai l'impression, depuis le début, de faire un peu ma popote, quoi, dans mon coin. Maintenant,
parce que pour la petite anecdote, il n'y a pas que Luc Besson qui a été le premier qui ait fait ce que vous êtes en train de raconter. C'est Marcel Pagnol qui écrivait des films, qui les réalisait, qui les produisait, qui les distribuait, était même propriétaire de salles de cinéma. Donc il allait loin
il possédait certains spectateurs même.
après je ne sais pas s'il appelait sur leur portable les Rému et autres pour les faire venir.
Non, mais tu sais, la vérité
c'est pas nouveau ce souci.
Oui, mais c'est pas du tout un plan de carrière calculé, tu vois. C'est juste qu'à un moment quand on fait les Kaira Shopping, qui est la première web-série que j'avais créée pour Canal+, à un moment pourquoi je me retrouve à jouer dans Kaira Shopping, parce que personne veut jouer dedans. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais tes petits sketchs, j'étais cadreur sur MTV, je me dis j'aimerais bien faire des trucs, qu'est-ce que je suis légitime à raconter ? Bah, je vais parler de mon parcours de banlieusard, je vais parler de mes potes qui me font marrer, parce que c'est là où je me marre le plus, c'est à l'arrêt de bus, sur le banc avec mes potes. Donc je vais faire un programme court qui parle de ça. Et faire une web-série à cette époque-là, c'était très nouveau, ça n'existait pas, il n'y a pas Norman, Cyprien, Mister V qui se filmaient encore dans leur chambre à cette époque. Donc tu essayes ça avec tes armes. Moi, je me dis, si ça marche, on mettra des vrais acteurs dedans. Finalement, Canal+ voit le truc et dit non, on change rien, c'est ces mecs-là qu'on veut. Et d'un coup, sans que j'ai choisi, le truc est parti, quoi, tu vois. Et puis, Mais il s'avère que dans la bande des Caïra, celui qui écrivait, c'était moi. Et puis moi, j'avais des vraies ambitions de metteur en scène. Et je me suis retrouvé presque obligé à avoir les trois casquettes. Et j'en suis ravi, parce que, bon voilà, j'en suis là maintenant. Mais tu vois, il y avait pas un truc calculé, quoi.
En tout cas, le film, lui, s'appelle La Surface de Réparation et il va faire du bien. Moi, je suis sûr que c'est contrairement à certaines personnes mal intentionnées autour de cette table, que ça va être un succès parce que c'est un film intelligent.
On a dit qu'on avait adoré.
Et on va en parler tout à l'heure. Foot avec Vincent Duluc et ce monde du foot, ou du moins de ceux qui vivent autour du foot. Mais d'abord, voici l'humeur de Marina Rollman, passionnée de football.
Oui,
elle adore le foot.
Oui. Mais je fais une parenthèse cette semaine et je vais pas en parler pour une fois. Alors, collègues, salariés de la bande originale, auditeurs et haters, bonjour, j'ai un coming out à faire. Voilà.
Enfin.
Je ne suis pas Pierre-Emmanuel Barré. Voilà. Peut-être que vous le saviez déjà, mais il y a des gens qui semblent apprendre chaque semaine. Pourtant, je sais, j'essayais déjà.
Dodo.
Alors, avec un casque sur une moto. Alors, pour ceux qui auraient passé les 5 dernières années sous un caillou, Pierre-Emmanuel Barré est un chroniqueur et humoriste qui a œuvré avec succès pendant 3 ans dans la bande originale, mais ça va bientôt faire une année qu'il est plus là. Et son départ a manifestement peiné beaucoup d'auditeurs qui possèdent, en plus du chauffage central et d'au moins un index, une connexion Wi-Fi et un compte Facebook. Et donc, sous chaque chronique France Inter, ça rate jamais. Il y a toujours une petite dédicace pour rappeler qu'à l'époque de Barré, les 10 auditeurs riaient plus, baisaient plus, gagnaient mieux leur vie, ne rataient jamais une maillot. Bref, que c'était mieux, c'était tellement mieux. Alors je les blâme pas, on sait que dans un deuil, il y a plusieurs étapes, hein, le déni, la colère, la main dans le slip à manger des nachos devant Motus. Et les fans de Pierre-Emmanuel Barré sont, semble-t-il, encore pour beaucoup au déni. Alors ça s'exprime tantôt de manière laconique avec des déclarations pleines de perspicacité telles que « c'est pas Pierre-Emmanuel Barré » sous des vidéos de Frédéric Sigrist. Bon bah oui, ça a le mérite c'est d'être vrai. Et de rappeler Bill Clinton ou Magritte et leur fameux « ceci n'est pas une pipe ». Sinon, il y a aussi les « ça ne vaut pas Pierre-Emmanuel Barré ». Et alors là, j'avoue que pour l'avoir rencontré en vrai, je suis assez d'accord. Parce que ne serait-ce que d'un point de vue volumique, le type est quand même beaucoup plus grand. Hein, et c'est une grosse bête, il doit faire 1,90, je sais pas, 80 kilos. Moi-même, en tirant bien dessus, j'arrive difficilement au 1,63 m. Non, mais sur moi-même, j'entends, je fais ça toute seule très bien. Enfin, ce qui fait que pour un Barré, il faut 1,7 fois Rollman, indéniablement, c'est pas la même chose. Après, dans Ça vaut pas, j'imagine qu'on parle pas que des qualités physiques, mais qu'il y a chez ses auditeurs mécontents une nostalgie du style. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu outrancier, assez rigolo. Il y avait beaucoup de métaphores sexuelles un petit peu osées. Et là, c'est vrai que moi, je ne vois rien. J'essaye parfois des céleris sodomites, baiser un sphinx, foutre de chat, mais on sent que je n'y crois pas. Plus radical, il y a carrément des gens qui mettent « rendez-nous Pierre-Emmanuel Barré », comme s'il y avait eu un troc. Alors je tiens à le préciser, je ne l'ai pas kidnappé, hein, même si cette petite salope aime comme la mère morte de Manuel Valls se faire attacher dans une cave avec un baillon boule, pardon. Tout ça pour dire, on n'est pas obligé d'être monogame culturellement, les amis. Il ne faut pas vous sentir obligé de dénigrer un artiste pour prouver votre amour à un autre. Le cœur est extensible. Par exemple, prenez Nagui. Il a 4 enfants. Alors bien sûr qu'il en a un préféré. Et je crois qu'en l'occurrence, c'est à 5e dont les autres ne connaissent pas l'existence, mais il m'a assuré aimer les autres quand même. Hein. Et c'est ça aussi, le vivre ensemble. Vous savez, Piala disait lors de sa remise de la Palme d'Or pour Sous le soleil de Satan à Cannes, quand il triomphait sous les sifflets des critiques et du public, si vous ne m'aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus. Eh bien moi, sachez que je vous aime quand même. Et bisous à Pierre-Emmanuel.
Mais absolument, non. Pierre-Emmanuel et Marina Rollman.
Merci. La bande originale.
La bande originale de Franck Gastambide, qui est notre invité, qui porte le film La Surface de Réparation, qu'on vous encourage à aller voir avec Alice Izaz, Hippolyte Girardot, Moussa Bansali, qui joue justement ce joueur de football professionnel qui est en train de foutre peut-être en l'air sa carrière, comme ça arrive souvent. Alors on peut le voir dans les infos, on peut voir ça dans des brèves, on peut se dire tiens, qu'est-ce qui se passe avec tel ou tel joueur qui arrive en retard de ses vacances, qui rate les entraînements, va-t-il être puni ou pas par l'entraîneur ou par les dirigeants? Ça se passe même encore là cette année au PSG. On en parle après avec Vincent Duluc, mais d'abord parlons avec Franck de musique et de ce que vous écoutiez en 1999. Enfin, c'est plutôt ce qui passait à la radio, plutôt que, je sais pas si vous écoutiez Santana particulièrement dans ces années 2000, mais c'est ce qui passait à la radio.
Il faut que je te dise la vérité.
On sait pas ce que vous écoutiez à ce moment-là.
Il faut que je te dise la vérité.
Dis-moi la vérité.
Il fallait que je donne des titres et j'ai oublié.
Ah bon, c'est pas grave.
Voilà. Mais non, c'est à dire que du coup, bah, tu vas me dire, alors, vous écoutiez ça, je te viens de dire non, en fait, c'est juste que j'ai pas répondu au texto assez vite qu'on m'a envoyé.
Très bien. voilà. Dans ces années 2000, il y a 18 ans.
Eh bien, vous vous lancez dans votre société de dressage animalier. Vous avez quoi, 21 ans et vous participez notamment à pas mal de tournages, près de 150 films je crois.
Ouais c'est ça, des films, des téléfilms avec Les Rivières Pourpres, Le Pacte des Loups, des films comme ça.
Astérix, Les Dalton.
J'ai dressé Rent en plan, je suis assez fier de ça.
C'est-à-dire ? Non, je parle, c'est que vous avez...
je vais prendre en photo le ticket de Romillon pour vérifier le tirage quand même, on sait jamais.
Il y a 40 et 44 je crois à la fin. Et les étoiles c'est 4 et 10, je les prends en photo aussi dans le doute.
Je t'écoute Léla.
Donc vous intervenez sur les Dalton, c'est ça ? Ouais. Et vous dressez en temps plan. Ça veut dire que comment est-ce qu'on vous trouve ? Vous étiez devenu une référence ? Parce que 150 films, je me rends pas bien compte du nombre de dresseurs qu'il y a sur le marché du cinéma. Est-ce qu'on fait toujours appel aux mêmes ? Est-ce qu'il y a une fidélité ? Comment ça fonctionne ?
Non mais c'est assez fermé le cinéma, ouais, hein, c'est un secret pour personne. Oui, je sais pas combien on était à l'époque, 5-6 peut-être. Mais pour Rent en plan, c'est particulier parce que faut trouver un chien qui n'existe pas quand même. Un chien qui est une truffe énorme. Qui, tu vois, c'est quand même.
Et comment on fait ?
Eh ben,
on lui fait une allergie à la truffe.
Tu frottes au papier de verre.
Alors n'envoyez pas des messages sur Facebook sur le manque de respect sur les animaux et la cause animale. On les déteste. Ceci n'était qu'une vanne. Merci.
Non, Rent en plan, non mais c'est un joli coup. T'imagines quand t'es dresseur d'animaux pour le cinéma, dresser Rent en plan, c'est un kiff génial quoi. Le chien le plus teubé de l'Ouest, c'est super quoi. Donc je rêvais de le faire. Et en fait, à un moment t'es confronté à une réalité, ça n'existe pas. D'ailleurs même les Américains quand ils font l'adaptation de Lucky Luke, il n'y a pas de Rent en plan parce que ça n'existe pas un chien comme ça. Et finalement je me suis rendu compte qu'il fallait se servir d'une base qui était le pincher moyen marron. Ce qui est une sorte de petit Doberman.
D'accord.
À qui on allait adapter une espèce de truffe où on allait l'entraîner comme si on lui faisait porter une muselière, par exemple, sur lequel il allait avoir une prothèse de truffe avec une énorme boule. Et puis ensuite, on allait lui peindre un peu les pattes en blanc comme Rent en plan. On allait lui mettre un collier rouge avec une étoile de shérif. Et était né mon Rent en plan. Et je les ai tous niqués comme ça. Voilà.
Incroyable.
Et j'étais très content de mon coup.
Incroyable. C'est combien de temps de travail parce que
l'animal n'a pas souffert.
Non, l'animal était ravi d'aller faire un film où il se marrait, où il faisait le con avec Eric Ramsey toute la journée.
Et combien de temps c'est de boulot pour dresser un chien ? Parce qu'il faut trouver le chien. Quoi, tout petit ? Vous le prenez à quel âge ?
Tu rêves, pas du tout. Comment c'est les Américains qui font ça. Nous, on t'appelle et puis on te dit, il faut rendre Rent en plan, on tourne dans 2 semaines. Ça n'existe pas Rent en plan, donc tu cherches un Rent en plan, tu cherches une solution. Tu croises tous les dresseurs de la place de Paris dans l'ascenseur chez UGC avec des chiens improbables qui ressemblent pas du tout à Rent en plan, mais où tout le monde tente sa chance avec son Rent en plan, tu vois. Et puis, j'arrive avec le mien, je trouve le...
Mais le vôtre, comment vous le trouvez, votre Rent en plan? C'est-à-dire, faut trouver un chien qui a à peu près l'âge, mais le problème, c'est qu'il a jamais été dressé mais avant.
En fait, la particularité
du... T'as fait une visée sur Rent en plan?
Ça va être un peu long.
Ça m'intrigue vachement.
Non, mais je fais signe au bout d'un quart d'heure, quand même, sur Rent en plan.
La particularité du dresseur du cinéma, c'est ses capacités à trouver n'importe quel animal et de devenir très pote avec lui tout de suite pour pouvoir aller sur un tournage de film après. Donc il a fallu trouver un chien très sympa, de bonne famille, bien éduqué.
Et avec un bon pédigré.
Voilà, avec qui j'allais pouvoir devenir pote assez vite. Quoi. C'est ce qui s'est passé avec Rent en plan.
Vous avez des animaux de compagnie à la maison ?
Et il me reste un petit American Staff qui est chez ma maman, qui s'occupe de sa sécurité et de sa
C'était
sa tranquillité.
Il n'est pas imaginable pour vous de ne pas avoir d'animaux ?
C'est un peu compliqué, mais la réalité, c'est que ma vie a changé. Alors, ça me manque énormément. C'est toujours ma passion du dimanche. Donc, je continue à aller chez mes potes dresseurs du cinéma. Je pense à Pierre Cadéac, où je vais me balader avec ses loups, où je vais donner à manger à son ours. J'en mets dans mes films.
Quoi,
surtout maintenant, je mets des animaux dans mes films.
Vous n'avez pas le temps de vous occuper ou d'avoir un chien à vous un
Non,
chien
là,
à vous
ça
parce
serait un peu égoïste.
Voyagez trop et vous.
Ouais, ça serait un peu égoïste que j'ai un chien en ce moment.
Et cette fixation sur Rent en plan, ça date de quand
En 2009.
En 2009, c'est la naissance de Kaira Shopping. On l'a évoqué un peu tout à l'heure avec vos copains Mehdi Sadoun, Jib Poctier, que vous rencontrez finalement. C'est des potes que vous rencontrez où d'enfance, des potes.
Courtrage-Mé.
Ouais, Courtrage-Mé, exactement. C'est Courtrage-Mé. C'est Kassovitz qui, quand je dresse les pitbulls et les rottweilers sur la rivière Pourpre, me dit faut que je te présente à des potes à moi qui font des petits clips et des petits courts-métrages. Ils ont ton âge, tu vas bien t'entendre avec eux, et ils me présentent à l'équipe de Courtrage-Mé. Et du coup, je sors un peu de ma banlieue et je traîne avec ces mecs qui me permettent d'avoir une espèce d'autres ambitions professionnelles parce que je me rends compte que je suis pas si différent d'eux, même si eux sont des fils de metteurs en scène, des fils d'artistes, ce qui est pas du tout mon cas. Et là, il y a Mehdi qui traîne là-dedans, il y a JB qui traîne là-dedans. On les utilise pas beaucoup.
C'est marrant, pardon, je vous interromps volontairement parce que par rapport au film Surface de réparation, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre, qu'il pourrait y avoir le même genre de mec que le Franck que vous incarnez au cinéma autour du monde du football, avec des gens qui tournent comme ça autour du monde du cinéma, ouais, en essayant de rentrer, d'exister ou de servir à quelque chose et d'avoir une reconnaissance de la part des gens du milieu et de ceux qui réussissent.
Ouais, c'est ça. Et ça passe par accepter.
Vous dites beaucoup, on traînait autour, on essayait de voir ce qu'on pouvait faire.
Ouais, c'est ça. Et puis ça passe aussi par le fait de s'émanciper un peu et de se dire peut-être que je pourrais faire ça moi aussi, quoi. Mais quand t'es confronté à des gens qui sont fils d'artistes et que toi, ta maman a fait le ménage et que autour de toi tes potes ils bossent à la mairie ou à la poste, tu es spectateur de ce que font ces mecs jusqu'à ce que tu oses te dire peut-être que je peux essayer un truc. Ouais. Et j'essaye un truc qui s'appelle Kaira Shopping.
Et ça fait 3 saisons.
Ça fait 3 saisons.
Et ça cartonne. Canal est sous le, on l'a évoqué tout à l'heure, est sous le charme. Commande 40 épisodes plus diffusion en ligne et à l'antenne.
Ouais, ouais.
Et là, tout d'un coup, c'est ça doit être magique.
Ben alors, c'est bizarre parce que à l'époque, on sait maintenant ce qu'on peut faire avec Internet. Mais à l'époque, quand Canal+ te dit on va en faire une web série, c'est une espèce de constat d'échec.
C'est la voix de garage.
Ah, c'est la voix de garage. Ouais. À ce moment-là, c'est le début, quoi. Ouais.
Et ça faisait atelier de création.
On
vous passe pas à la télé, mais vous pouvez jouer dans votre coin.
C'est exactement ça. Ouais. Alors, il y a peut-être un truc à faire avec vous, mais de toute façon, on vous met sur Internet. Donc, si c'est pas bien, on vous cache. Et puis, on dira qu'on vous a trouvé. Si jamais on trouve que c'est bien.
Et ça vous donne pas envie de continuer à produire, justement, des séries, des web-séries, parce que 3 saisons pour les Kaira. Il y avait envie de continuer, de faire un autre format de ce genre-là.
En fait, la suite de l'histoire, tu la connais, c'est que on fait une saison, puis deux, puis on finit par nous mettre à l'antenne. Qui, faut le rappeler, que c'était un programme extrêmement segmentant qui commençait par Salut bande de bâtards et où on vendait des trucs qu'on avait volés, etc. Donc c'était pas gagné. Enfin, c'était pas.
Il y a ça sur BFM tous les jours.
C'est génial. Oh là là là, attention.
Donc.
Pourquoi, attention.
Frein à main, bande d'arrêt d'urgence.
C'est ça.
Okay, allez.
Voilà.
Bon, et puis tout ça se termine par Canal+, qui te dit ils sont super vos personnages, peut-être qu'il faut réfléchir à en faire un film. Et voilà comment cette bande de 3 mecs qui traînaient dans des couloirs de petites chaînes du câble se retrouve à faire un long métrage qui va aller à Cannes et qui va devenir le film le plus rentable de l'année.
À faire des pubs aussi.
D'un coup vous attirez
D'autres regards aussi.
Ouais, c'est la première. Mais en fait, le format de Kaira Shopping, et forcément ça appelait un peu les publicitaires, quoi. Ça les a un peu intéressés. Et puis nous, on gagnait pas du tout d'argent à ce moment-là. Tu fais des piges pour Canal+ sur Internet, pour être clair, quoi. Avec des producteurs qui se servent avant en plus. Donc toi, il te reste plus grand-chose. Puis d'un coup, on te dit, il y a une grande marque de soda qui aimerait bien que vous soyez un peu les égéries en France. Aux États-Unis, c'est Rihanna. Ici, c'est vous. Bon.
Bouge ton boule.
Alors, ok, on va le faire. Ma condition, ça a été, ok, mais alors j'écris et je réalise la pub. Et puis effectivement, c'était avec Cantona. Et puis voilà. Non, mais c'est on a eu beaucoup de chance quand même. Il faut reconnaître qu'on a eu des coups de pouce.
En 2015. C'est ce qu'on entendait à la radio. Hein. Uptown Funk, Mark Ronson et Bruno Mars. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est le genre de musique que vous écoutez ou pas du tout? Vous êtes plus...
Je suis pointu. Je suis beaucoup plus hip-hop.
Ouais.
Ouais.
Et 2015, Franck s'est enragé. Le premier film d'Eric Enzo. Qui est vraiment un très beau film, un film de genre. On avait reçu Virginie Ledoyen à cette occasion-là, ouais. Avec Guillaume Gouix au casting, Lambert Wilson. Et là, c'est une première chance de faire un film de genre. Un film un peu rêvé quand même, non?
Oui, c'est-à-dire que là, j'ai fait vraiment que des comédies qui se passaient plutôt bien. Alors quand t'es un comédien, t'as toujours peur de t'abîmer quand tu vas faire un film, t'as toujours peur d'être jugé. Et là, d'un coup, tu sais, il y a cette espèce de truc où tu prends pas trop de risques parce que malgré tout, devant toi, il y a Lambert Wilson qui est au front, il y a Virginie Ledoyen qui est au front. C'est assez confortable de faire ses armes dans d'autres registres de cinéma en étant en second rôle. Donc voilà pourquoi je vais faire ce film.
C'est l'histoire d'un kidnapping, c'est un film qui est un très beau film, qui a hélas pas rencontré son public, je crois, mais qui était une vraie proposition cinéma.
Contrairement à La Surface de Réparation, qui va rencontrer son public.
Et qui n'est pas une proposition.
Mercredi prochain, le 17 janvier, avec Franck Gastambi, dont parle football, évidemment, puisque Vincent Duluc, que nous avions reçu pour Au cœur des Bleus, c'était l'année dernière.
C'était avant l'Euro, c'était il y a bientôt 2 ans.
Voilà, c'est ça. En juin 2016, vous étiez venu pour ce livre publié aux éditions l'émission Stock. Vous êtes journaliste à l'équipe, évidemment spécialiste du football, même si on n'a pas les mêmes opinions sur Didier Deschamps, qui est mon ami.
Ça va beaucoup mieux.
Entre vous deux,
oui, oui, ça va beaucoup
tant
mieux.
Tant mieux. Vous allez finir par comprendre que c'est un très bon sélectionneur. Dans le film que vous avez
Donc pour moi, c'est quoi une défense, ses copains.
C'est le parrain de cette émission, Didier Deschamps. Donc vous voyez bien, c'est compliqué.
Non, puis c'est un ami, un vrai.
C'est un barnaque, c'est pareil.
Dans le film, que vous avez vu, est-ce que vous avez vu, reconnu des passionnés comme ça de football ou des ex-joueurs rejetés d'un centre de formation qui s'accrochaient encore avec passion au monde du football et presque en étant un peu des losers quand même.
Mais complètement, en fait, il y a plein de fils qui sont tirés comme ça par le film. Et c'est vrai, il y a effectivement la dimension de l'échec qui est très importante en foot parce qu'on se rend pas compte de la violence de l'échec. Il y a 1%, je dis 1%, c'est peut-être 1 pour 1000 qui réussit. On sait que
en sortant d'un centre de formation, à devenir professionnel. Quoi,
les gens qui trouvent que les footballeurs gagnent trop d'argent, que c'est trop facile pour eux, ils gagnent sans doute trop d'argent, mais ils se rendent pas compte de la violence, de la concurrence année après année, de la violence chaque année de recevoir au mois de mai une lettre pour leur dire on te garde pas, et de la différence, comme l'a dit Franck tout à l'heure, qui se fait entre deux jeunes qui ont vécu exactement la même enfance, qui ont été eux aussi les meilleurs d'abord de leur cours, de département, puis ensuite de leur club, et ensuite qui ont été en sélection de jeunes, mais même en équipe de France Espoir encore. Il y a des échecs monumentaux. Et donc, on ne se rend pas compte de la différence entre deux jeunes qui ont vécu la même vie.
Il y a des rames humains.
Et il y a 21 ans, il y en a un qui va appeler l'autre pour essayer d'avoir deux places, et puis l'autre qui est millionnaire, alors qu'ils ont fait la même chose, et que ça s'est joué sur rien, sur trois fois rien, sur un entraîneur qui pensait qu'il y en a un qui mentalement était prêt, et l'autre qui était un peu faible, mais qu'ils avaient exactement les mêmes qualités. Et ça, c'est assez fascinant, et je trouve que c'est un peu décrit comme ça en creux, ou même carrément décrit dans le film. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Et dans ce rapport-là qu'il y a entre les joueurs et du moins l'observation du petit détail, du petit grain de sable qui peut venir foutre en l'air toute la machine et toute la vie et toute la carrière, c'est-à-dire une sortie en boîte de nuit. On blaguait tout à l'heure sur la manière dont Giroud mettait presque une puce GPS aux fesses de ses joueurs pour savoir où ils allaient, à quel moment ils rentraient. On s'est beaucoup moqué de lui pour ça, mais presque beaucoup de joueurs, je pense, en sont reconnaissants d'avoir été une mère poule comme il a été.
Oui, le personnage de Franck dit souvent aux jeunes joueurs, soit focus, pense au jeu. Mais c'est vrai qu'on se rend compte avec un peu d'expérience que c'est là-dessus que fait la différence, sur les carrières. On peut dire très vite.
On peut appeler quoi? Sur l'éducation, sur le mental, sur l'entourage?
Oui, sur l'envie. De toute façon, l'entourage aujourd'hui, il est multiplié chez les joueurs. C'est des petites PME. Ils ont un entourage social, ils ont un entourage financier, ils ont un entourage sportif lié à la performance. Parce que la plupart d'entre eux, maintenant, ont des préparateurs physiques, en plus de leur entraînement. C'est-à-dire qu'ils ont parfois des sophrologues qui leur parlent au téléphone tous les jours. Ils ont voilà.
Et pour prendre deux exemples de stars du football dont vous avez beaucoup parlé dans vos colonnes, Neymar et Mbappé, les deux sont extrêmement protégés, entourés par leur propre papa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus protecteur que
comme les joueurs de tennis.
Qu'un papa, oui, c'est vrai, comme aussi des joueurs de tennis.
Mais c'est vrai, je pense que c'est quand même la meilleure protection possible. Ce qu'on voit de Mbappé, ce qu'il renvoie actuellement, quelqu'un de très mature, ça vient de ses parents. C'est-à-dire que voilà, il a la chance d'avoir des parents qui connaissaient le foot, qui connaissaient ce milieu, qui connaissaient le sport, qui l'ont préparé, qui de manière assez fascinante se répartissent. Les deux aspects de sa carrière, c'est-à-dire que le père s'occupe du sport et la mère s'occupe du marketing et du financier. Donc
à partir du moment où un joueur ou Samir Nasri se prend la tête avec son père, on peut se dire que là il y a un problème dans l'éducation. Et
on parle d'Athènes Ben Arfa qui a des problèmes. Je pense qu'avec ses parents ça a été un vrai problème. Mais sur l'entourage, ce qui est intéressant, c'est que je pensais en regardant le film à l'affaire Benzema Valbuena.
Ouais.
En fait, les pieds nickelés qu'on retrouve dans tous les PV des auditions et de l'enquête, c'est des petits frères de Franck Gastambide dans le film.
C'est vrai.
C'est-à-dire, j'ai une super idée, je vais faire des sacs de foot Louis Vuitton, etc. Mais comment tu fais? Ah bah je me suis arrangé, j'ai mis un autocollant, mais t'as demandé une autorisation. Mais je connaissais un vendeur à Marseille, il m'a dit oui. et voilà, c'est des choses comme ça. Mais c'est la vraie vie.
Et en même temps, on voit que ces jeunes joueurs, ils peuvent jamais sortir en fait. C'est-à-dire que vous dites ce qui fait la différence, c'est le mental et la régularité. Mais ça veut dire qu'ils ne s'amusent jamais. Ils ont quoi? Ils ont 13, 14 ans. Ils ont tous envie de quoi? d'avoir une petite copine, une petite chérie.
Parce que tu vas en boîte à 13-14 ans avec une petite copine.
Non, mais chérie, ils sont en centre de formation, ils sont entre garçons, oui. Mais un peu plus tard, même un peu, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont une partie de leur jeunesse aussi qui disparaît.
Mais, et c'est le prix à payer, mais la réalité est qu'ils s'amuseront un petit peu plus tard, quand même, qu'à partir de 20 ans, si ils vont passer une soirée, par exemple, Neymar, avant de signer au PSG, il était à Paris 2 soirs par semaine, il venait en jet privé, il venait dîner, il repartait chez lui et il rentrait à Barcelone. Donc voilà, après la vie mais la vie des jeunes footballeurs est pas très différente, je sais pas, des petits rats à l'opéra, c'est pareil, ouais, c'est un art qu'il faut entretenir et il y a une concurrence énorme
et
voilà.
Et puis c'est l'échelle de le biorythme est totalement différent dans la mesure où ils sont à la retraite à 34-35 ans. S'il n'y a pas eu une blessure avant qui est venue interrompre leur carrière.
T'as 16-17 ans, 15 ans, t'as envie de t'amuser aussi au moment.
C'est ceux qui vont trop s'amuser après justement qui feront pas carrière après.
Mais enfin au niveau scolaire, c'est chose. Il y a la différence, elle se fait entre ceux qui s'amusent et ceux qui ne s'amusent pas, quand même, globalement.
Non, mais il y a la différence que l'investissement et ce qu'il faut donner pour être footballeur professionnel est tellement énorme quand t'es jeune que quand ça s'arrête, c'est une violence terrible, quoi. Et le personnage que je joue dans La Surface de la Passion est un mec qui ne s'en est jamais remis de cette violence-là, en fait. C'est ça qui est assez...
Qui n'a pas de vie, d'ailleurs. On ne voit pas de vie
qui n'en a plus, parce que la seule vie dans laquelle il se projetait, c'était celle de devenir footballeur. Et quand tu lui arraches ça... Et c'était le seul rêve de sa vie. Quoi.
Alors vous êtes aussi l'espion des dirigeants. Les dirigeants ont comme ça des espions qui sont dans les autour des joueurs, qui les fréquentent et qui donnent des petites informations en disant.
Moi, je suis persuadé que ça existe. Alors effectivement, on a plus l'impression que ça peut exister dans un cadre un peu, j'allais dire un peu chabrolien comme ça de province. Mais bien sûr, ça existe partout. Tout se sait. À Paris, les dirigeants de PSG, ils savent exactement ce que fait Verratti, globalement, quand même.
Et il est important aussi pour les dirigeants que les joueurs soient mariés pour être stables ou pas.
Ça a toujours existé. Alors moi, j'avais écrit un livre sur Georges Best, qui avait été un grand joueur de Manchester United des années 60, un des premiers ballons d'or. Et en fait, la règle à Manchester United, pendant 25 ans, c'était soit vous vous mariez, soit vous habitez chez une logeuse. Vous n'avez pas le droit d'habiter tout seul.
C'est fou. C'est fou. Ah oui.
Pour être sûr de pas ramener de filles.
Pour être sûr qu'ils fassent la sieste, pour être sûr qu'ils rentrent le soir, pour être sûr, voilà.
Pour l'hygiène de vie. Tout simplement pour leur hygiène de vie. Juste un petit point sur l'actualité foot, puisque justement là on parle de... j'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait une allusion à Cavani et Pastore qui sont rentrés trop tard de leurs vacances. C'est-à-dire même quand on est adulte, grande star reconnue, mondialement reconnue, on peut désobéir et mal pas respecter les règles du club.
Oui, on ne peut pas respecter les règles. Alors, c'est pas tant les règles du club finalement que les règles de la vie de groupe. Et ça existe à tous les âges. Le vrai problème, c'est pas tellement de rentrer en retard par rapport au club, c'est de rentrer en retard par rapport à ses coéquipiers qui eux sont rentrés à l'heure. C'est ça qui pose un petit problème.
Un manque de respect.
C'est ça qui crée un peu des tensions dans le vestiaire. C'est par rapport au clan. D'ailleurs, le clan, c'est aussi un autre thème du film qui est vraiment intéressant. C'est le sentiment d'appartenance comme ça. Et le foot, finalement, c'est l'histoire du foot. C'est toujours nous contre les autres, et lui, il a choisi de rester nous tout le temps.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais une question sur à votre avis, la manière dont les joueurs, les footballeurs peuvent prendre ce film. Parce qu'on parle de choses pas forcément très cool. Ouais,
ils vont se reconnaître. Ils vont dire que c'est les autres, mais ils vont se reconnaître.
Vincent Duluc, on la gagne, cette Coupe du Monde ?
Mais pourquoi pas? On a un grand sélectionneur, c'est ça?
Ouais.
Mais oui. Non, mais
on a le meilleur.
Non, mais c'est possible. Alors après, on a une équipe un peu jeune, et est-ce qu'on peut gagner une Coupe du Monde avec une équipe un peu jeune? C'est la seule question. Mais il y a vraiment beaucoup de talent pour rêver un peu au mois de juin, et c'est possible au mois de juillet.
Ouais, ça peut le faire. Le tirage au sort vous paraît positif?
Le tirage au sort, il est comme toujours avec Didier Deschamps. Ça se passe toujours très bien au tirage. C'est-à-dire, tous les clubs qui ont un tirage au sort difficile aimeraient être entraînés par Didier Deschamps pour avoir un tirage au sort facile.
Non, mais il a clairement réussi à constituer un groupe qui, on parle du mental tout à l'heure, mais qui, entre eux, en tout cas, pour les avoir vus et côtoyés pendant l'Euro, il y a un vrai rapport d'amitié et de bon esprit dans le club.
Il y a un vrai groupe. Alors
le club, dans l'équipe. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est des équilibres fragiles, mais c'est des équilibres indispensables, parce que là, il s'agit de passer 30 ou 40 jours ensemble, du matin au soir, 24 heures sur 24, alors qu'en général, ils passent jamais plus de 5-6 jours. Donc oui, c'est un enjeu énorme.
Alors, bonne nouvelle pour la bande originale, on va faire des émissions en direct de Moscou pendant la Coupe du Monde.
C'est vrai?
Enfin, je sais pas, mais moi j'y serai. Donc si vous voulez que vous fassiez l'émission, il faut y aller.
T'auras une ligne.
Débrouillez-vous.
Non, on va venir, on va se démerder.
Ouais, on va se débrouiller. Ouais.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Passionné de football également. Oui. Vous allez nous parler des victoires, mais de la musique.
Oui, les victoires, c'est cette cérémonie qui est super à regarder pour qui a une soirée de 4h30 devant lui et lors de laquelle des artistes qu'on adore remercient des mecs de maison de 10 dont on n'a rien à foutre. C'est dans un mois pile, Nagui. L'identité des nommés a été dévoilée cette semaine.
Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent Duluc. Je rappelle, Au cœur des Bleus, hein, c'est publié aux éditions Stock. Et vous êtes toujours à l'équipe. Hein,
Absolument.
Ils ont construit l'équipe autour de vous. Allez, là, c'est toi qui présenteras les Victoires de la musique, d'ailleurs. Classique aussi.
Classique.
Oui, classique.
Ouais, ça sera en fin février.
C'est encore plus chiant, non?
C'est pas, non.
Je crois qu'il m'adore. Je crois que c'est une déclaration d'amour qui vient de faire Franck Gassanvide.
Les remerciements en russe, c'est pas évident.
Je vous invite, Franck Gassanvide, à venir à Evian. Dans un super
auditoire. Il y a moins de remerciements de gens de maison 10 qu'on ne connaît pas aux Victoires de musique classique.
Il y en a quasiment pas.
Tout se fait en allemand, d'ailleurs.
Beaucoup plus élégant que ça. Franck Gassanvide est notre invité, Evaneur, jusqu'à 12h30 dans la bande originale. Original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudabi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, Tom Villa et notre invité Franck Gassanvide. Avec ce très bon film, La Surface de Réparation, ce film qui est un premier, qui est une réussite par Christophe Régin, qui en est l'auteur et le réalisateur de ce film, et ex-étudiant de la FEMIS, hein, c'est ça, qui a fait plusieurs courts-métrages autour du sport.
C'est ça, c'est la classe.
Et qui est la référence. Mais ça sent en tout cas, parce que on n'est pas du tout dans un côté scolaire dans le film, mais ça sent qu'il y a un savoir-faire, donc il a bien dû l'apprendre.
Il y a ça, et puis il y a la passion du sujet, quoi. C'est que c'est un mec qui est passionné de football, des travers et de l'envers du décor du football. Et souvent dans les premiers films, ce qui est important, c'est de le faire avec sincérité, de parler de ce qu'on maîtrise.
Et de ce qu'on connaît, puisque visiblement, il connaissait des gens qui vivaient comme ça, comme votre personnage, qui s'appelle aussi Franck. Dans le film, c'est gênant d'avoir un personnage qui a son prénom.
Alors, je pense que la logique est assez implacable. Je crois qu'il a écrit ce film pour moi, donc il avait mon personnage en tête, et il l'a donc appelé Franck sur ses premières versions de scénario, puis il a tout simplement jamais changé.
Il n'imaginait pas de vous appeler Philibert, quoi. C'est un truc qui...
A priori, non.
Ouais, on sait que c'est un manque de confiance en vous.
Il y a une belle alchimie avec Alice Cizaz. Tous les deux, à l'écran, vous êtes très... très beau, très...
compatible.
Non, évident. Il y a quelque chose de naturel de vous voir ensemble.
Ouais ben moi, c'est toujours un kiff. Bon, ben d'abord, c'est une actrice...
juste.
Ouais, juste. Et puis surtout, elle vient de faire des films assez incroyables. Et je suis toujours un peu complexé, moi qui viens de la comédie, à chaque fois de me dire, bon, il va falloir aller kicker, comme on dit dans le rap, avec des gens de ce niveau-là. Et ouais, j'ai l'impression que ça marche, nous deux.
Ouais, voilà. Ça marche très bien.
Mais alors, tu sais, c'est un peu comme quand j'ai tourné avec Samy Boisgila ou avec Pio Marmaille, quand tu sais que le lendemain, tu tournes avec quelqu'un comme Alice Cizaz, comme Hippolyte Girardot, bah, tu apprends bien ton texte et puis t'essayes d'arriver en forme. Voilà.
En tout cas, pour revenir au personnage d'Alice Cizaz, elle, c'est une ex-fiancée d'un joueur de football professionnel, donc elle connaît ce milieu, elle connaît les joueurs, elle connaît surtout leur niveau de vie et leur rang social, et on la sent attirée. On sait pas trop d'ailleurs si elle michetonne, puisque l'expression est employée dans le film, ou si simplement elle est attirée par les paillettes et par ce milieu entre guillemets où tout semble facile.
Ouais, c'est ça, mais je crois que ça se rejoint en fait. On parle depuis tout à l'heure des gens qui gravitent autour des footballeurs, pas forcément toujours pour des bonnes raisons. Bah, dans ces gens qui gravitent autour des footballeurs, de leur médiatisation et de la fortune qu'ils ont, il y a aussi...
Il peut y avoir des filles intéressées.
Il peut y avoir des filles intéressées, bien sûr. C'est des filles qui ont en tout cas ce personnage-là, qui a la maîtrise des médias, du scandale, de ce qui peut faire vendre concrètement.
Le buzz.
Le buzz, ouais. Et puis surtout... le film est à un moment de la vie de ce personnage-là où elle n'est pas avec un footballeur. Elle cherche à se mettre avec un footballeur. Et puis le problème du footballeur, c'est que parfois il te fait croire, en tout cas dans ce cas-là, que tu vas peut-être devenir sa femme, alors que le lendemain, il se rappelle plus de toi. Et elle est un peu victime de ça. Et oui, parfois, ça la rend un peu méchante. Ouais.
Le film, en tout cas, évoque toutes ces histoires particulières, ces vies particulières sur la toile de fond du football. Vous aimez le football, vous en verrez une facette particulière.
Et si vous n'aimez pas,
si vous n'aimez pas, vous découvrirez en tout cas des histoires humaines, sociales, des rapports humains, des histoires d'amour aussi. On n'est pas obligé d'aimer le football en tout cas pour aimer ce film. Je tiens vraiment à le dire. Voilà. La Surface de Réparation, c'est mercredi prochain. On n'est pas obligé d'aimer Tanguy Pastureau pour l'écouter. Mais c'est maintenant.
Adieu.
Tanguy, cette semaine, donc, sont tombées les nominations Victoire de la musique.
Oui, et c'est important, la musique, parce que sans musique dans Taratata, il y aurait juste vous, Nagui, en train de demander à Noël Gallagher, but what, why are you here? Mais que fais-tu ici? Ce à quoi il répondrait, I don't fucking know, je ne sais pas du tout, zut. Sans musique dans l'émission de Ruquier, l'invité arriverait en silence et il entendrait Christine Angot dire, celui-là, je vais le briser, il va partir pleurer chez sa mère et je vais le finir à coups de pompe, ça fait 2 heures que j'ai pas vu mon psy, putain, je suis à cran. Sans musique, gare Montparnasse au lieu de tin, 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 tin. En raison d'un incident technique, l'ensemble des trains est retenu en gare jusqu'au 17 juin 2019. On entendrait la même chose, mais sans tin, 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 tin. Eh ben, on râlerait. C'est la petite musique qui nous calme. Si à l'hôpital, pour vous annoncer que vous êtes malade, le médecin faisait tout, 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 il vous reste 6 mois. On dirait, merci docteur, 6 mois, génial. Allez, la grande vie, cet après-midi, je vais à l'Aqua Boulevard. Sans musique, quand on verrait Iggy Pop torse poil avec 15 jours de cacadieux sur la face, on lui donnerait un ticket resto. La musique, c'est un vecteur d'émotion. Je me souviens la première fois que j'ai entendu Céline Dion chanter la BO de Titanic, mais je me suis mis à crier. Attends, Leonardo, je viens avec toi sous l'eau. C'est pas grave de couler. Le Parti Socialiste a fait ça il y a 8 mois. Bah, aujourd'hui, on réalise qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Ce parti avait la même utilité qu'un distributeur de capotes au Saint-Siège. Et chaque année, on récompense nos meilleurs chanteurs et musiciens à travers une cérémonie longue comme un spring break sans alcool qui se déroulerait à Limoges. La chose aura lieu le 9 février et sera animée par Daphné Burki, la dame plus pétillante qu'une canterbro décapsulée avec sa dernière dent par un punk à chien. À côté de Burki, Sublet, c'est Jean-Pierre Bacri quand il passe devant le siège des Républicains. Alors la liste des nommés a été dévoilée cette semaine et il y a du lourd. Hein. Et pour toute la famille, Denzo, 12 ans, qui kiffe le peura, à mamie Ghislaine qui devient moite en écoutant Nostalgie. Exemple, artiste féminine de l'année, on a Charlotte Gainsbourg, la seule femme de 45 piges à pouvoir porter un débardeur délavé sur un falzard troué et à rester élégante. Moi, une fois j'ai fait ça, le SAMU social m'a apporté un gobelet avec un bouillon chaud. Il y a aussi dans cette catégorie Louane, la chanteuse cucu avec à la candeur rafraîchissante et Catherine Ringer. Artiste masculin, on a Aurel San, hein, le rappeur qui a toujours l'air triste. Quand on le voit, on a envie de le dérider avec une blague de Toto, une pénétration digitale ou moins sympa à faire avec un sourire, mais...
Bon, dans cette catégorie, vous avez tort parce que non, mais je reste bloqué sur Aurel San, c'est un très bon album. Bien dans sûr. Cette catégorie, il y a également Soprano et Bernard Lavilliers.
Oui, oh, j'adore Lavilliers. Hein, à chaque fois qu'il va en vacances quelque part, il fait un truc avec la musique du coin. 15 jours au Pierre et Vacances de Cuba, album salsa. Il loue un Airbnb à Kingston, Jamaïque. L'île des défoncés pour qui Carla Bruni, c'est Usain Bolt. Il se met au reggae. Lavilliers, vous le lâchez en forêt de Rambouillet. Il vous pond 15 titres où il chante sur des corps de chasse. Chanson de l'année, il y a du Louane, du Soprano, du Kyo. J'en connais aucune, je suis vieux, foutez-moi la paix. Kyo, moi c'est le cri que je pousse quand je me lève trop vite du canapé à cause de mes vertèbres. Album révélation, il y a Juliette Armanet, chanteuse qui est passée 7000 fois sur Inter en 2017. C'est notre déesse. Quand elle arrive, on lui lèche les pieds en pleurant, tandis que Mathieu Gallet lui tend un café en lui disant « Je ne vous mérite pas ». Révélation, il y a aussi Petit Biscuit, un jeune de l'électro. Il n'arrivait pas à choisir son nom de scène, il a ouvert un placard, a vu des biscuits, s'est dit « Je prends ça ». Un prince avait fait pareil, il avait des princes de lui et des pépitos. Il s'était dit « Pépito, ça fait latino, si un jour dans 40 ans, il y a un mec qui construit un mur, ils sont capables de me foutre de l'autre côté ». Donc il a pris « Prince ». Alors moi j'ai regardé dans mon frigo, comme pseudo je peux prendre « Tetravac, hein, c'est un des 140 vaccins que je dois coller à mon fils et qui attendent dans la porte parce qu'ils supportent pas les piqûres. Enfin, moi. Album de chansons, on a Brigitte, le groupe, hein, pas la première dame. Elle ne chante qu'en privé, dodo l'enfant d'eau à son jeune mari pour l'endormir le soir. Album rock, on a Chaka Ponk, le groupe qui à la supérette s'arrête jamais au rayon shampoing. Album musique du monde, on a Oumou Sangaré, une malienne. M qui a fait un album de musique du Mali et Amadou et Mariam des Maliens. Hein, donc en fait le monde c'est le Mali. Hein, vous faites Bamako, Tombouctou en mobylette, vous pouvez dire à vos amis... J'ai fait le tour du monde. Alors à noter que la cérémonie sera retransmise en direct sur France Inter. Donc on va peut-être diffuser du Kyo sur cette antenne. L'ensemble des fans de Juliette Armanet va claquer un infarctus. Si en plus Soprano rafle 2 victoires, le lendemain de la cérémonie, on aura Jean-Paul Boutcrou, président d'Énergie, qui viendra ici changer la serrure et prendre possession des lieux. Donc allez Juliette, tu vas les éclater Maloute. On t'aime, palmarès dans 1 mois, Nagui.
Merci Tanguy Passion. La bande originale, Nagui, sur France. France Inter. On parle de musique, on parle du film porté par Franck Gastambide qui s'appelle La Surface de Réparation. Et bien dans le film, il y a la bande originale. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez vu le film la première fois? Parce que entre tourner un film il y a un an, enfin avoir lu déjà le script, puis le tourner, et on sait que c'est jamais dans l'ordre dans lequel c'est fait, qu'il y a toujours des scènes qui sont enlevées au montage, on découvre des choses. Quelle a été votre première réaction, vous?
Vraiment, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui prépare ton cerveau à ça. C'est-à-dire te voir d'abord à l'image... Même quand tu fais une émission de télé, c'est toujours un peu particulier. Mais alors, te voir incarner quelqu'un dans une fiction, c'est très étonnant. Je crois que la première vision du film, quand t'es comédien et que tu portes le film, tu passes quand même toujours un peu à côté en vrai. Il faut que tu le revoies. Et là, je l'ai redécouvert ensuite en public.
T'as la première fois, vous regardez pour analyser ce qui va, ce qui va pas, c'est ça?
Ouais, je crois, franchement, l'acteur qui te dit le contraire, je pense que, qu'il te ment. Parce que, oui, t'es obligé de regarder, de voir si t'es bon, de voir si t'en fais pas des caisses, de voir si tu surjoues pas, de voir si tu te regardes pas jouer, tu vois. C'est quand même, c'est très étonnant. C'est difficile de demander à ton cerveau de rentrer dans l'histoire alors que t'es en train de te regarder. Ouais. Donc la première vision, elle est toujours un peu faussée. Et c'est d'ailleurs toujours délicat parce que la première vision, en général, c'est chez des producteurs avec les comédiens et le metteur en scène qui regarde toutes tes réactions. Et qui à la fin te dit alors, qu'est-ce que t'en penses? Et à ce moment-là, en général, t'en penses pas grand-chose.
Et tu dis, ouais, c'est bien.
Ben oui, c'est... mais tu dis toujours, écoute, c'est très bizarre, je me suis regardé pendant une heure et demie, tu vois. C'est quand même, c'est très étonnant.
Et en public, avec un vrai public, cette fois-ci en province, alors, le regard est différent.
Ce qui est très différent, c'est la sortie de la salle. Surtout pour un mec comme moi qui est habitué à des comédies. Et quand tu sors de la salle, les gens, ils viennent, ils te tapent sur l'épaule. Ils disent, super, le nain, des barres de rire, ma femme, elle adorait. Tu vois, et c'est super parce que ça sert à ça, ce que tu fais, justement, à ce que ça rit. Et puis toi, tu t'es pris la tête à l'écriture, au tournage, au montage, à établir une mécanique de comédie pour que ça provoque des rires et des réactions sur le public.
Et un tempo aussi. Ouais.
Voilà. Mm. Et là, ben, tu te rends compte que tu es capable, enfin, je viens de découvrir que j'étais capable de provoquer d'autres émotions et qu'à la sortie des salles, les gens, parfois, sont touchés, ont les yeux un peu rougis d'émotion et bon, c'est très plaisant de te dire que tu peux provoquer ça. Maintenant, en vérité, le mec qui est le moins bien placé pour te parler de ce film, au fond, c'est moi quand même, parce que je suis de tous les plans. C'est très bizarre de dire est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bizarre, hein.
En tout cas, vous n'avez pas eu un sentiment d'avoir été trahi par le montage ou de voir autre chose que ce que vous aviez tourné ou ce
que
vous attendiez?
Non, tu sais que ça, c'est montage, ça essentiel. Nous aide toujours les acteurs. C'est-à-dire que le moment où t'es moins bon, il y a ce qu'on appelle le contre-champ et tu passes sur la personne qui est en face de toi et t'as l'impression que t'étais super bon alors que toi, tu sais qu'il y a des moments où t'as bégayé un peu.
Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Contre-champ, voici Daniel Morin.
ça ne va pas bien, les amis. Non. Ça a même commencé hyper mal. Aujourd'hui, Leïla est arrivée en larmes. Elle était prostrée au fond de sa chaise, en train de dire « Non mais merde, sérieusement, vous voulez ma peau, quoi ? C'est le dernier jour de la semaine, je suis crevé et vous m'imposez une émission avec comme sujet l'univers du football. Vous savez que je supporte pas le foot !» Alors pour la calmer, Nagui a dû lui promettre que très bientôt, on inviterait un danseur philosophe qui ne parle que le grec ancien.
Rien pour elle. Rugbyman, ça verra.
Une info qui l'a réconfortée, même si elle sait très bien que Nagui ne connaît que des footballeurs. Et puis, l'ambiance est terne depuis la sortie dans la presse du manifeste des 100 gonzesses, dont Catherine Deneuve, qui défendent les harceleurs sexuels. C'est vrai que ça crée un malaise. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est aussi jour de fête. Eh oui. Partout dans le monde, c'est... Eh oui, le 12 janvier, c'est la journée mondiale des roues, hein. Quelle bonne nouvelle! Oui, la journée du roux, et plus précisément le Kiss Ginger Day, ce qui veut dire la journée où tu embrasses un roux. Le challenge est simple, les amis. Si aujourd'hui vous apercevez un roux, vous lui sautez dessus et vous l'embrassez à pleine bouche. Bon, la journée des roues, c'est vrai que c'est hyper cool, mais est-ce que les roux apprécient cette journée? C'est vrai que c'est leur journée, après tout, on pourrait se renseigner. Non, parce que tu es roux, tu te lèves le matin, tu sors, la journée des roux, t'es hyper fier. Mais as-tu envie pour autant qu'un inconnu te saute dessus et commence à te galocher copieusement en te palpant les fesses? Non, pas forcément. D'ici à ce que tous les roux s'indignent et portent plainte pour harcèlement, il n'y a pas loin. Heureusement, il y aura sûrement Deneuve et sa bande pour sortir une tribune de défense des harceleurs de roux pour défendre les droits fondamentaux à abuser des roux. Hein. Bon, tout ça, c'est pas très très joyeux. Heureusement, il y a les soldes. Ah, les soldes, c'est tellement cool! Moins 10, moins 20, moins 30, moins 50, moins 70% de quoi s'acheter tout ce dont on n'avait pas besoin avant-hier. C'est la bonne nouvelle. Et c'est plutôt bien pour se remonter le moral. Car aujourd'hui, il n'y a pas que Leïla qui a eu un petit coup de moins bien à cause de la programmation. Non. Nagui aussi a flanché. Oui, Nagui en larmes, allongé sur la moquette qui sanglotait comme un enfant battu, la voix noyée par les larmes et qui nous a dit « Non mais merde, j'ai vu le planning !» Et lundi, on a Pascal Elbé et Anna Mouglalis qui viennent pour parler de la série Paron Noir. C'est une série sur la politique, j'y connais rien, j'y comprends rien. Leïla a bien essayé de le rassurer en lui disant qu'elle allait tout faire pour lui expliquer, lui apprendre l'histoire du Parti Socialiste. Ça a calmé Nagui, même si ce dernier n'est pas dupe, il sait très bien que Leïla n'y connaît rien non plus en politique de gauche, vu que c'est une grande nostalgique de Nicolas Sarkozy et son ministre, le charismatique Brice Hortefeux.
On avait dit qu'on n'en parlait pas.
Brice Hortefeux, mais ce serait pas un... Mais si, c'est un roux! C'est un roux! Allez, tout le monde se mobilise et cherche Brice Hortefeux dans Paris pour lui sauter au cou et le couvrir de baisers. En même temps, si vous interpellez Brice pour l'embrasser, ne le couvrez pas de bisouilles. Justin Saïra, rappelez-vous de sa célèbre phrase. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Ah oui, non, parlons, il ne parlait pas des bisous, il parlait des Arabes. Non, rien à voir. En même temps, il ne va pas nous emmerder non plus, le Brice, hein, si on veut l'embrasser comme des forcenés et qu'il nous embête. Moi, tout de suite, j'appelle Deneuve et ses copines en direct pour qu'elles nous signent une tribune dans Le Monde pour défendre le droit à harceler les roux racistes. Voilà ce que je ferai. Allez, bon week-end à tous.
Merci. France Inter, la bande originale avec Nagui. Franck Gastambide est notre invité, oui. On parle de La Surface de Réparation, le premier film de Christian Régin.
Christophe.
J'ai dit, ah oui, pardon.
Mais tu l'as appelé Christophe depuis le début, c'est dommage.
C'est fou, c'était bien, on était presque arrivés, tu vois, à l'émission parfaite, et là, l'erreur. Donc parlons.
Il y a bien un Christian dans sa famille.
Il y a un cousin, un cousin roux qui s'appelle Christian. Quoi. Bon, Christophe Régin, pardon, a réalisé ce film. Est-ce que le casting dont parlait tout à l'heure aussi Leïla et Tom a été fait autour de vous, puisque le film a été écrit pour vous? Avez-vous donné votre opinion en disant « j'aimerais bien tourner avec un tel ou un tel » Avez-vous fait des essais pour savoir avec qui ça irait, avec qui ça irait pas?
Écoute, effectivement, ça se passe comme ça, le cinéma. C'est-à-dire que il y a le premier
c'est
rôle.
C'est-à-dire que tout se fait autour de moi.
Et c'est très gênant de dire ça. Mais effectivement, ensuite, on te soumet un petit peu quand même, tu vois? Parce qu'il suffit que tu aies une histoire avec l'actrice qui l'intéresse et d'un coup ça ne marche plus.
C'est ou ça.
Que... Non, mais.
Non, et même physiquement, pardon, il faut aussi
exactement.
Que le couple soit crédible.
Ouais, ouais, et puis, alors je vais te dire comment ça se passe. En général, donc tu es choisi pour être l'acteur principal du film et on va te demander de venir aux essais des acteurs à qui tu dois donner d'accord. la réplique. Et puis on va voir si ça marche, quoi. Et ensuite, il faut faire confiance au metteur en scène. Il a imaginé. Un duo, il a imaginé des choses et on va essayer, quoi, voilà.
Et alors, j'imagine que le travail a dû être décuplé sur Taxi 5, puisque vous avez voulu tout faire sur ce votre troisième long-métrage. Il sortira le 11 avril. Il y a Malik Bentala, Bernard Farsi, Ramzi Bedia, entre autres. Ça a été de tels succès, les autres taxis, que vous avez une pression particulière ou au contraire une détente en disant c'est une marque, il y a des fidèles, 27 millions de personnes ont vu les quatre premiers numéros en se disant bon bah de toute façon il y en aura forcément deux ou trois qui viendront voir celui-là.
Deux ou trois, ça serait bien.
S'ils peuvent en parler à deux ou trois personnes aussi, ça nous arrange.
Non, mais évidemment que, tu sais, quand tu fais un film plus d'auteur comme La Surface de Réparation, ce qu'il faut, alors c'est super si ça touche le maximum de personnes, mais ce qu'il faut, c'est que on a envie d'avoir une bonne presse, on a envie que le film tourne
c'est
en festival,
le cas.
Et c'est le cas. Super. Un film comme Taxi, évidemment qu'il y a une obligation de réussite au box-office parce que c'est ce qu'on appelle un film pop-corn. C'est donc un film qui coûte beaucoup d'argent et il faut que les gens aillent le voir parce qu'on l'a fait pour ça. Ça, c'est une réalité. Maintenant, moi, depuis le début, les discussions que j'ai avec Luc Besson, c'est de se dire, il faut tout recommencer, quoi. Et c'est à ça que je sers, moi, quand je reprends Taxi. C'est-à-dire, j'arrive avec mon énergie, j'y injecte ma bande, j'y injecte mes vannes, mon humour un peu générationnel. J'ai essayé de faire un taxi qui soit dans l'air du temps et pas de reprendre la recette d'il y a 10 ans, qui est le dernier. Parce que on a juste à constater que toutes les reprises qui ont été faites ces derniers temps, je pense à Brice de Nice, aux Visiteurs, même à La Tour Montparnasse Infernale d'Eric Ramzy, à chaque fois, ce sont ou des gros échecs, ou en tout cas des vraies déceptions, parce que c'était loin des scores qui existaient à l'époque. Et mon analyse, c'est qu'à chaque fois, on reprend la même recette d'il y a 10 ans ou 15 ans, et on resserre aux gens la même sauce en leur disant « c'est ceux que vous avez aimés il y a 15 ans ». Mais tout a changé, tout a évolué.
Le scénario, c'est vous qui l'avez écrit ou c'est
ouais.
Luc?
Non, c'est moi. En fait, j'ai été voir Luc qui a jamais pensé à faire cette suite et j'ai été, en prenant mon courage à deux mains, j'étais accompagné de Malik et je lui ai dit, voilà, monsieur Besson, je sais pas si vous avez pensé à faire un autre taxi. Je m'appelle Franck, je viens de faire un film qui a fait 2 millions et je suis un fan de Taxi parce que je suis un mec de Melun, de banlieue, et que ça fait partie de mes premiers souvenirs de mec de banlieue d'aller voir Taxi en pote, en bande de potes. Donc je rêve de ça et Luc Besson m'a dit « Ok, assis-toi, explique-moi ». Et pendant 45 minutes, je lui ai raconté ce que je voulais faire. Et au bout de 45 minutes, il s'est levé, il m'a dit « Ok, pour moi c'est bon ». Et puis après, je me suis mis au travail. Et puis ça y est.
Non mais avant de se mettre au travail, on sort de ce rendez-vous et on se dit quoi en marchant dans la rue?
Exactement ce cri. Mais t'as raison. C'est ça l'étape la plus folle dans cette histoire, c'est que d'abord on arrive à la Cité du cinéma, qui est un endroit incroyable, où on est reçu sur le tournage de Valérian, qui est un tournage incroyable. Malik, il décrochait plus un mot. C'est-à-dire Malik, pour la petite histoire, c'était le jour de l'anniversaire de Luc Besson qu'on ne connaît pas, et Malik lui dit en tout cas Luc, je voulais vous dire j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est votre anniversaire, alors bon anniversaire. Et là, Luc, il lui dit « Je déteste qu'on me souhaite mon anniversaire.
Tu sors.
Cool. » Voilà, donc voilà comment s'est passée la première approche avec Luc. Et oui, quand Luc nous dit ça, il y a quand même un moment où, avec Malik, on se regardait du genre « Oui, tout est normal ». Dès qu'on a fermé la porte, on a hurlé en se disant « C'est incroyable ce qui nous arrive, on va faire Taxi 5. »
Il faut qu'on passe notre permis.
Comme quoi le culot paye et le travail aussi paye. Il faut pas oublier non plus que derrière il y a des tonnes et des tonnes de jobs. On parle beaucoup de buzz dans le film La Surface de Réparation. Il y en a eu un qui était plutôt négatif au moment du tournage Taxi 5 à partir de Samir Nasri et de cette polémique d'être ou pas exclu.
Samir Nasri, c'est le joueur de foot.
Pardon, ouais. Je suis encore dans le football. Ouais. Samir Nasri. Voilà. Bref. Votre position là-dessus, c'était une évidence pour vous qu'il ne fasse pas partie du casting?
Non, au contraire, c'était une évidence pour moi qu'il fasse partie du casting. La volonté de la production, et pour être très clair de Luc aussi, c'est que il fallait arriver avec un nouveau duo, une nouvelle énergie. Et pour être très honnête, et Samy, c'est tout ça parce qu'on s'est entretenu, on a même été prendre un verre, donc... je suis un fan de Taxi et un fan donc de Samy. Moi, je voulais qu'il soit dans le film. J'avais même écrit une première version de scénario où il existait un peu de manière assez importante. Et où Luc, assez justement, m'a dit, bah non, on est en train de construire un nouveau duo, des nouveaux héros. Donc, on peut pas aller chercher l'ancien héros. Et puis, pour être très honnête, ils ont aussi un passif tous les deux qui ne me concerne pas, mais qui fait qu'ils n'avaient plus trop d'envie de travailler ensemble, en tout cas du côté de Luc, c'est la
réalité. Même un clin d'œil de passage dans le film.
Moi, en fait, voilà, on en est arrivé à ça. Ouais. J'avais écrit une scène de fin où Luc avait complètement validé cette idée que Samy arrive à un moment dans le film. J'ai soumis cette idée à Samy. La réalité, c'est que Samy, il a d'autres projets, qu'il est en Russie où c'est une grande star là-bas, qui tourne là-bas et que, bon, ben, j'ai complètement compris qu'il ne souhaite pas faire une petite apparition. Ouais. Voilà. Mais tout ça, c'est fait plutôt en bonne intelligence. Mais c'est un dossier particulier, c'est la vérité.
C'est clair. La Surface de Réparation, c'est mercredi prochain au cinéma et c'est un très bon film qu'on vous encourage à aller voir. Des excuses à présenter, Daniel?
Bah, désolé pour tous les acteurs qui ont bossé avec Franck Gastambide et les réalisateurs qui rêveraient de le faire tourner. Et oui, vous l'avez entendu, il a déjà connu le sommet, le top de sa carrière avec Rent en plan. Fuck les Oscars, maintenant il vise les concours canins. Désolé pour les Nantais qui se sont sentis blasphémés par les moqueries concernant leur ville. Alors déjà, comme me le disait Nagui en off, hein, c'est quand même une sacrée ville de merde. Et je vous rassure, hein, Tom Villa n'aime pas non plus les Marseillais, les Corses, les femmes et les gays. Salut Tom, commencent.
J'aime bien les Corses.
Et désolé enfin pour Leïla, j'ai eu la production des Victoires de la musique classique qui aimerait que tu corriges le tir rapport à la pub faite par Franck Gastambide et Marina Rollman qui ont en gros décrit une soirée chiante présentée en allemand. En même temps.
Merci Franck Gastambide, encore
avec
bravo
plaisir.
Pour votre interprétation dans la surface de réparation. Bonne journée, bon week-end, le best-of et Daniel Morin, vous les femmes, à 17h samedi et dimanche. À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand.